Bonsoir. Après la récupération de Bunagana, quartier général du M23 hier par les FARDC, le président Joseph Kabila s'est adressé à la nation. Dans son message, le chef de l'État a notamment félicité les FARDC et appelé tous les groupes armés à déposer les armes. Toutefois, Joseph Kabila a ajouté que le succès militaire ne remet pas en cause les options diplomatiques et politiques en cours. Comment analyser le message du chef de l'État? C'est le thème que nous vous proposons ce soir. Trois invités participent à cette émission. Honorable Justin Bitakwira, député national de l'opposition et président du groupe parlementaire UNC et allié à l'Assemblée nationale. Honorable, bonsoir.
Bonsoir Alain Long.
Tekis Moulaïla, cadre du PPRD et rapporteur de la commission défense, sécurité et surveillance des frontières au Sénat. La réalisation me signale qu'il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Également maître Jean Morbert Nsenga, il est avocat et analyste politique. Également il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Partout en RDC, vous nous suivez en FM et partout au monde sur RadioCapi.net. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Cette émission est une rediffusion.
Après la récupération de Bunagana, quartier général du M23, hier dans les après-midi, le président Joseph Kabila s'est adressé à la nation congolaise. Dans cette adresse de 9 minutes exactement, Joseph Kabila salue d'abord les performances des FARDC qui, dit-il, ont rétabli l'honneur et la dignité de la nation tout entière. Il salue également la mémoire des militaires décédés au front et les trois casques bleus tanzaniens ainsi que les autres casques bleus de la MONUSCO battu aux côtés des FARDC. On écoute le président Joseph Kabila dans cet extrait sélectionné par Martin Sebujangwe.
Le succès de la contre-offensive menée par nos forces de défense et de sécurité dans le territoire occupé du Nord Kivu en réaction aux tirs aveugles des forces négatives n'a donc pas pour conséquence de rendre caduques les options politiques et diplomatiques en cours en vue de rétablir une paix durable. Je réitère mon appel aux éléments du groupe armé qui vient d'être déguerpi des territoires de Nyiragongo et de Rutshuru à se démobiliser volontairement à la faveur de l'initiative de la région des Grands Lacs, faute de quoi nous n'aurons d'autre option que de les y contraindre par la force. Le même appel est adressé aux autres groupes armés nationaux. Mettre fin à toutes leurs activités militaires rendrait les uns et les autres éligibles à la réinsertion dans la vie nationale. Quant aux groupes armés étrangers, FDLR, ADF Nalu, LRA et FNL, qui continuent à semer la désolation dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu, je les mets en demeure de déposer les armes et de mettre fin à toute exaction sur les populations congolaises. Aux pays voisins, je tiens à redire que la voie royale pour la paix et la stabilité dans la région réside dans la mise en œuvre effective et de bonne foi de l'accord cadre d'Addis Abeba ainsi que de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Le chef de la MONUSCO invite d'autres groupes armés œuvrant dans l'Est congolais à déposer les armes en faveur de la paix. Pour Martin Kobler, la reconquête du territoire de Rutshuru des mains du M23 doit servir de signal fort aux autres groupes armés. Il a déclaré ce mercredi à Kinshasa au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Pour le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, la MONUSCO va devoir appliquer son mandat tel que défini dans la résolution 2098. Ce mandat permet maintenant de prendre une mesure pour surveiller les frontières entre le Rwanda et la RDC pour parer à toute éventualité. Martin Kobler dans ses propos recueillis par Askin Zigbiatayoro.
Nos actions vont cibler tous les groupes armés, y inclut les FDLR, l'ADF, mais aussi les groupes Mai Mai. Tous les groupes dans l'est de la RDC doivent déposer les armes. Et c'est aussi un message maintenant par cette première action de libération d'un territoire à Kivancharujuru. C'est le message aussi pour les autres de rentrer sur la voie de la paix et de déposer les armes et afin que le gouvernement est permis de restituer l'autorité de l'État. Je crois que c'est très important de voir une surveillance frontière entre Rwanda et la RDC. C'est notre mandat parce que pendant les derniers jours, on avait des rapports qu'on avait des tirs sur un territoire à l'autre. C'est notre mandat et j'ai demandé au commandant de la force d'organiser cette surveillance des frontières.
Alors avant d'aller dans le vif du sujet, quelle est la situation ce soir au Nord Kivu? Les FRDC ont finalement lancé ce jeudi leur assaut sur le dernier verrou du M23 à Mbuzi, Tchanzu et Runyoni. Il s'agit des collines situées dans les groupements Djomba et Kisigari dans le territoire de Rutshuru. C'est du moins ce qu'annoncent les responsables de l'armée au Nord Kivu. Une délégation composée du gouverneur du Nord Kivu et des responsables de la MONUSCO est toutefois arrivée à Tchengerero, 24 km de Rutshuru sur la route de Bunagana, c'était en vue de réconforter les populations civiles. Honorable Justin Bitakwira, vous êtes député national de l'opposition et président du groupe parlementaire UNC et allié à l'Assemblée nationale. Comment vous avez reçu plutôt l'adresse du chef de l'État à la nation hier?
Et avant toute chose, je vous salue d'abord et je salue tous les auditeurs de Radio Okapi qui me suivent. Avant que je ne donne mon point de vue, je voudrais d'emblée des jeux, l'ancien proverbe chinois au chef de l'État, à la communauté internationale, aux forces armées et à toute la population congolaise. Les Chinois disent que la volonté ne dépend pas de l'âge. Sans volonté, on vit dans le vide pendant 100 ans.
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je voudrais dire donc qu'il a dépendu d'une moindre volonté de part et d'autre, en commençant par la communauté internationale, pour que le M23 soit défait dans moins de 72 heures. Donc, il y avait un manque criant de volonté de part de tous les acteurs dans le conflit à l'est du Congo, et nous espérons qu'ici, c'est l'occasion pour nous de pouvoir féliciter nos forces armées, notre peuple et la communauté internationale. Donc, ici,
le gouvernement également.
Le gouvernement également, mais le gouvernement a tâtonné à maintes reprises pour manifester une bonne volonté de mettre fin à cette crise. Et vous vous rappelez qu'à un moment, ce n'eût été la pression du peuple congolais, celui du Nord qui vont partir. On a tenté de ramener à Kinshasa le commandant Mamadou. Les populations du Nord Kivu sont allées jusqu'à l'aéroport pour dire cette fois-ci Kinshasa, on en a assez, ce commandant ne peut pas partir. Donc je crois que c'est la bonne volonté des uns et des autres pour qu'on arrive au résultat actuel. Et donc ici, c'est l'occasion pour moi, comme l'a dit d'ailleurs mon président national, Vital Kamerhe, ce matin sur RFI, que nous invitons donc et le président de la République, et la communauté internationale, et l'opposition à une certaine union sacrée. Parce que le sort du Congo, nous n'avons plus de clivage entre et l'opposition et la majorité. C'est notre sort commun. Et la République démocratique du Congo, c'est notre mère commune.
Alors qu'est-ce que vous répondez à ces observateurs qui sont crachés sur les succès militaires des FRDC, affirment quand même que ces victoires semblent du moins trop faciles? Quelquefois même sans combat.
Non, d'abord, il faut d'abord observer l'attitude du Rwanda face à la défection du M23. Il y a plus de 4 jours où son ambassadeur aux Nations Unies avait dit qu'ils vont entrer en République démocratique du Congo pour y mener des opérations chirurgicales. Donc, en face de nous, on avait déjà sous forme d'une Palestine et d'un Israël où on entre quand on veut. Malheureusement ou heureusement pour nous, je crois que la communauté internationale, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit la France, qui a d'ailleurs joué un rôle éminent avec la résolution 2098, nous pensons qu'il faut leur jeter des fleurs. C'est pas un fait de hasard que cette guerre se termine d'une manière inattendue. C'est pas un fait de hasard.
Alors, quelles sont les données qui ont changé du côté du gouvernement? Vous avez relevé le manque criant de volonté. Maintenant, il y a suffisamment de volonté. Les FRDC ont du succès sur le terrain. Et du côté du M23, du côté du Rwanda, de la communauté internationale, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé?
Et ce qui a changé, je crois que c'est la volonté commune de tous les acteurs. Et ici, sincèrement, je pense, parce que j'ai échangé avec un officier supérieur militaire, que notre armée a droit aussi à des primes de risque. Parce que un officier militaire, ici à Brazzaville, ou à Luanda, ou à Kigali, n'a pas moins de 1 500 $. Mais notre officier militaire congolais, qui doit défendre la République contre 11 voisins, ne touche que 91 000 francs congolais. C'est à peu près l'équivalent de 97 $. Donc, il nous faut revoir les calculs. C'est ainsi qu'effectivement, nous invitons les uns les autres, gouvernement, opposition, communauté internationale, société civile. Ici, je présente mes félicitations à Kafouta et à Dakar, Mouiti, du Nord Kivu, qui réellement se sont investis pour faire entendre la voix des Congolais face à cette guerre. Donc, pour nous, c'est une satisfaction totale. Et nous encourageons tous ceux qui nous ont apporté ce qu'ils ont pu pour que, effectivement, le M23 soit défait comme il a été le cas.
Alors, vous avez suivi le président de la République. Je reprends cet extrait de son discours. Le succès de la contre-offensive menée par nos forces de défense et de sécurité dans les territoires occupés du Nord Kivu, je le paraphrase, n'a donc pas pour conséquence de rendre caduques les options militaires et les options politiques et diplomatiques en cours en vue de rétablir une paix durable. Qu'est-ce que vous en pensez?
Et d'abord, il faut dire que le chef de l'État, dans son discours hier, bien que bref, il a touché réellement dans la plaie, en stigmatisant effectivement les FDLR, ADF Nalou, les LRA, les FNL, parce que vous savez que moi, à Uvira, il y a des bataillons et des bataillons de l'armée burundaise qui sont sur le sol congolais. Ça, vous le savez au moins. Pour venir effectivement voir qu'ils vont, ils vont s'attaquer contre les FNL, qui font rage dans cette partie de la République. Donc nous pensons effectivement que cette union sacrée va nous permettre qu'on a enlevé une 33e dent aujourd'hui qui était le M23. Et nous pensons qu'il faut faire attention que le gouvernement de la République, qui a d'ailleurs légitimé depuis un certain temps le M23, en lui donnant le poids qu'il n'avait. Et nous, président du groupe parlementaire de l'opposition, nous avions été invités à aller à Kampala. Je me pose la question que si on s'y était rendu, qu'est-ce que nous serions devenus? Donc le chef de l'État, nous l'encourageons dans le fait qu'il ne doit pas croire qu'il ne peut négocier qu'à ceux qui ont pris les armes. Et la compétition démocratique en République du Congo, moi je la compare aux Jeux Olympiques. Merci. Et dans les Jeux Olympiques, on ne prime que 3 gagnants. La médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze. Et vous connaissez de quoi je parle.
Peut-être que vous donnerez un peu plus de précision sur ça. Je vous redonne la parole tout à l'heure, honorable Justin Bitakwira. Sénateur Tekis Moulaïla, bonsoir, vous êtes en ligne.
Oui, bonsoir.
Je rappelle que vous êtes cadre du PPRD et rapporteur de la commission défense, sécurité et surveillance des frontières au Sénat. À votre tour également, comment vous avez analysé l'adresse du chef de l'État hier à la Nation après la reprise de Bounagana?
Non, le chef de l'État n'a jamais commis une erreur. Quand il parle, c'est le peuple congolais qui parle. Je suis en train de suivre mon ami et frère Bitakwira. Mais je le connais des noms de visage, de caractère et d'origine. Quand il raconte des choses pour plaire à sa famille politique, je regrette, je connais ce qu'il veut et ce qu'il dit. Plus d'une fois, il n'a cessé de féliciter le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Je pars du discours du chef de l'État. Je me remets à la vérité opérationnelle sur terrain. Mais qui ferait mieux que Kabila aujourd'hui? L'honneur du peuple congolais, l'avenir des générations futures, la dignité de l'homme congolais. Mais non, soyons sérieux, soyons corrects. Lui et moi, on serait tous à Kampala. Tous de l'opposition qui devraient venir à Kampala, quand on leur avait parlé de 30 millions ou de 30 000 dollars, ils étaient tous preneurs. Quand on est revenu à l'option du nationalisme, on leur avait demandé, il ne s'agit pas de l'argent, allez défendre la République. Opposants comme ceux de la majorité, vous êtes aujourd'hui opposants de la majorité parce que le régime Kabila existe. Et quand ils ont compris qu'il n'y avait pas 30 000 dollars, ils sont tous partis.
Sénateur Moulaïla.
Oui.
Je posais tout à l'heure la question à l'honorable Bitakwira. D'après lui, également d'après vous, quelles sont les données qui ont changé sur terrain du côté du gouvernement, du M23, du Rwanda, de la communauté internationale? Lui a semblé fustiger le manque criant de volonté de la part du gouvernement qui s'est ressaisi d'après lui. Pour vous, quels sont ces éléments qui ont changé sur terrain pour favoriser cette montée en puissance des FRDC?
Il n'y a pas rien à changer. Nous avons des forces armées qui sont toujours préparées pour la défense de la République, pour la défense de l'intégrité territoriale, pour la défense des intérêts et des biens de tous les Congolais. Mais vous savez, l'histoire nous dit beaucoup de choses. Mais quand le chef de l'État et les forces armées se sont ressaisis, il y a eu une décision, et la décision c'est laquelle? Puisqu'on est agressé, il faut trois options, diplomatique, politique, militaire. Et le chef de l'État, comme cet homme respecte sa parole, il a respecté toutes ces étapes, et quand il fallait respecter surtout l'option politique et qui a eu un comportement d'arrogance, un comportement indigne. Et puis, vous êtes tous informés, monsieur le journaliste, on ne se battait pas contre les Congolais, mais on se battait contre les laquais du Rwanda, les laquais d'autres pays voisins.
Alors, sénateur Moulaïla.
Oui, laissez-moi parler.
Alors, vous avez toujours la parole, hein, parce que j'ai un chrono devant moi. C'est vous qui avez toujours la parole, mais juste une précision. Si vous, puisque vous soutenez que rien n'a changé, alors pourquoi, pendant tout ce temps, le M23 n'avait pas été aussi défait qu'il l'est maintenant?
Mais, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est d'abord l'option. L'option diplomatique a été utilisée. L'option politique a été utilisée. Ils se sont entêtés. Le chef de l'État leur avait donné l'occasion qu'ils puissent bénéficier non seulement de la tolérance et du pardon local, national, international. Ils se sont entêtés. Et par après, il y a eu l'option militaire qui n'a pas été une surprise. Puisque le chef de l'État avait promis, sur base du comportement de ces égarés qui se disent du M23, alors qu'à l'évaluation de cet accord du 23 mars, plus de 85% avaient accordé la faveur au gouvernement qui a beaucoup exécuté. Ce qui n'a pas été exécuté, c'est parce qu'il y a eu un comportement anarchique de ceux qui se disaient des Congolais mais qui obéissaient au Rwanda. Alors, on est arrivé à l'option militaire. Donc, notre armée n'avait jamais été une armée faible. Seulement, le chef de l'État ne voulait pas qu'il y ait un bain de sang. Ne voulait pas que les gens aient un discours où Kabila est en train de s'attaquer à la minorité. Non.
Merci. Merci, vous sénateur Moulaïla. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Maître Jean Morbert Nsenga, bonsoir, vous êtes en ligne.
Oui, bonsoir, messieurs les journalistes.
Je rappelle que vous êtes avocat et analyste politique. Quelle lecture vous faites de l'adresse du chef de l'État hier?
Je trouve que c'est une adresse qui était très équilibré et très rationnel. On a eu l'impression d'avoir un président qui intervient d'abord à temps opportun et qui parle des choses telles qu'elles devaient se dire, même si cela n'a pas échappé aux Congolais que le message a été lu. Je pense que cela aurait pu être plus pertinent si c'était spontané et non pas quelque chose de préparé à l'avance. Et encore, si le message était donné sur place à Goma pour conforter cette population qui vient de vivre près de deux années de guerre, de présence de ces groupes armés. Mais vous ne m'avez pas permis de remercier et de féliciter, comme tous les autres intervenants, comme il se doit, les forces armées de la République démocratique du Congo pour ces exploits qu'ils sont en train de réaliser. Également, la MONUSCO. Je suis bien l'une des personnes les plus critiques envers la MONUSCO, mais pour cette fois, il faut reconnaître que depuis l'avènement de M. Kobler et du commandant Santos, il y a une réelle amélioration et sans l'appui consistant de la brigade d'intervention de la MONUSCO au FRDC, je suis presque sûr que cette victoire n'aurait pas été aussi éclatante ou bien aussi évidente qu'on est en train de la vivre. Je pense qu'il y a aussi quelqu'un qu'il faut beaucoup féliciter, c'est le peuple congolais, la population du Nord Kivu tout en particulier, parce qu'elle a insisté, elle a été lucide, plus lucide que ses dirigeants dès le départ, en disant la solution politique, la solution diplomatique ne va jamais marcher s'il n'y a pas inversion des rapports de force. Et voilà, deux ans après, heureusement, on vient de l'entendre et on est passé à l'offensive. Donc cette population est également à féliciter. Et aussi les frères et sœurs de Rutshuru et Nyiragongo qui ont vécu ces affres, qui étaient pratiquement pris sous otage, mais qui n'ont rien perdu de leur dignité et de leur fierté, de leur courage de s'identifier à la nation congolaise.
Alors, Maître Morbert, voilà. Jean-Morbert Nsenga, de votre point de vue d'analyste, quelles sont les cartes qui ont bougé ou qui ont changé sur table afin de favoriser ces succès militaires?
Alors, il y a plus ou moins quatre éléments majeurs, quatre facteurs. N'en déplaise à ce que monsieur le sénateur Moulay là est en train de dire que rien n'a changé, tout en se contredisant par ailleurs. Il y a eu quatre facteurs principaux qui ont changé, à mon avis. Le premier, c'est la fermeté de la communauté internationale. Cette fermeté s'est exprimée à travers la résolution 2098 de l'ONU qui a créé la brigade d'intervention avec un mandat offensif, ce qui n'était pas le cas avant la chute de Goma, avant les années antérieures. Donc cet élément a été favorisé, l'adoption de cette résolution est venue avec l'opprobre de la chute de Goma, mais aussi avec l'insistance, encore une fois, de la population, de la société civile et d'autres organisations qui ont dit on a besoin de neutraliser ces forces, ces groupes armés et non pas seulement de les cajoler. La MONUSCO ne peut pas continuer de se promener là où les gens sont en train d'être tués, violés, etc. Donc il y a eu cette résolution 2098. Il y a aussi les pressions croissantes sur le Rwanda. Ces pressions, notamment des États-Unis d'Amérique, se sont accrues depuis la nomination de M. Ruth Fenelgold et la venue au secrétariat d'État de M. John Kelly. On a senti que les États-Unis étaient plus fermes envers le Rwanda et même après les menaces récentes dont M. Bitakwira a parlé tout à l'heure, les États-Unis ont fait une déclaration pour rappeler au M23 qui devait nécessairement désarmer et au Rwanda qui devait respecter l'accord cadre. Il y a le troisième élément, me semble-t-il, c'est l'appui substantiel de la MONUSCO et de la brigade d'intervention au FRDC. L'autre élément, c'est l'amélioration du commandement des FRDC. On sait, il y a eu le cas du général Amissi Kumba, dont les rapports de l'ONU a dit qu'il livrait des armes et des munitions aux groupes armés. Il a été mis de côté et depuis il a été remplacé par le général Olenga, qui fait nettement mieux son travail. Il y a également le commandant Bauma, des officiers comme le colonel Mamadou Ndala. Tout ce commandement-là qui est meilleur, qui est plus coordonné, qui est plus cohérent, a servi à quelque chose, mais aussi un début d'amélioration des conditions des non-militaires qui maintenant peuvent avoir de l'eau. Il y a à Goma, on voit fréquemment un camion Actros pour fournir de l'eau aux militaires sur le front. Il y a les petites soldes qui sont maintenant en train d'être améliorées, même si on est encore loin des conditions que mérite une armée vraiment républicaine et professionnelle. Et le dernier élément,
très rapidement,
je pense que c'est le temps. C'est le temps qui a joué en faveur de cette option, parce que au fur et à mesure que les mois passaient, on a vu que Kampala ne pouvait rien donner. Mais à Kinshasa, on a essayé de gérer les problèmes. La communauté internationale était un peu naïve.
Merci.
Aussi. Mais avec le temps qui passait, on s'est rendu compte que seule la voie militaire pouvait porter quelque chose.
Merci, Maître Jean-Morbert Nsenga. Honorable Justin Bitakwira, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Bounia en province orientale.
Maître David Mambo de Bounia en province orientale. Si la RDC ne compte que sur le succès militaire récent des FARDC sur le M23, succès qui lui était difficile durant des décennies sans envisager les dialogues et la diplomatie, je crois que ce succès risque d'être alors fragile et temporaire.
Honorable Bitakwira, il faut consolider ce succès militaire par la diplomatie et l'option politique, notamment l'option diplomatique politique en rentrant à Kampala notamment.
Oui, je salue Maître David, mais avant tout, il faut que je réponde au sénateur Moulaïla, qui est un frère et un ami. Et vous savez, quand on est à la majorité, on est en même temps prisonnier moral, mental et physique. Et on n'a plus le temps de pouvoir réfléchir avec objectivité. Le sénateur Moulaïla vient de passer 10 mois à Kampala. Nourris, logés, avec des perdus inimaginables qui se sont partagés avec les gens du M23. Je crois que s'il a bénéficié peu, il doit avoir eu plus de 80 000 dollars. Donc, il n'a jamais été question au président du gouvernement de l'opposition d'exiger un seul sou pour aller à Kampala. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, en tant que député, nous avons refusé d'avoir comme chef de l'élégation un ministre.
Voilà, nous référons cette parenthèse à ce que vous avez répondu. Allons-y maintenant sur les options diplomatiques.
Sur les options diplomatiques, militaires, je dis...
Il faut maintenir.
Oui. J'ai d'abord parlé ici de l'Union sacrée, que nous sommes interpellés tous pour qu'effectivement notre pays recouvre la paix. Et la paix n'a pas de couleur. Elle n'est pas la paix pour l'opposition, elle n'est pas la paix pour la majorité, c'est la paix pour notre pays et c'est la paix pour nos populations. Donc chacun de nous a soif de la paix. Cependant, il faut plus que le gouvernement donne une occasion au M23, que l'occasion qu'il n'a plus. C'est la raison pour laquelle, dans le rapport du 24 septembre dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies continue à insister qu'il y ait un dialogue national inclusif. C'est le rapport du Conseil de sécurité du 24 septembre. Donc, nous pensons donc que les grandes forces politiques de l'opposition, qui n'ont pas pris part aux concertations nationales, avec aujourd'hui la mouvance présidentielle requalifiée, et avec les groupes armés dans tout leur ensemble, c'est au sein du dialogue qu'il faut verser tous les problèmes. Mais s'il faut encore aller aux négociations à Kampala, pour donner le poids au M23 qu'il n'a plus, moi je crois que c'est une manière de récompenser même un mort. Et nous interpellons les Congolais qui sont membres du M23, de déposer les armes, comme le président de la République l'a dit, pour que effectivement ils redeviennent des citoyens, sauf ceux qui ont commis des crimes de guerre ou des crimes de sang.
Mais vous avez également suivi la communauté internationale qui soutient qu'il faudrait vider toute la substance de Kampala. La RDC a-t-elle une marge de grande marge de manœuvre?
Si vous parcourez ce rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies et du secrétaire général des Nations Unies, il invite le gouvernement congolais, comme je l'ai dit, avec la mouvance présidentielle requalifiée, MPR, avec les partis politiques de l'opposition qui n'ont pas pris part aux concertations nationales, et les groupes armés, je pense qu'il faut qu'on se retrouve autour d'une table pour qu'effectivement on épuise le problème qui reste dressé devant nous. Cependant, je voulais quand même féliciter Maître Jean-Robert Nsenga pour les 4 éléments qu'il a soulevés ici. Non seulement les boutons ont changé, mais ce qui s'est passé brutalement et brusquement à l'est du pays pour défaire le M23, ce n'est pas notre propre volonté. C'est la volonté de la communauté internationale. Vous savez, avec ce qui s'est passé au Nord-Mali, 3 000 hommes ont suffi de mettre en déroute l'Al-Qaïda, le MAA, le MNLA et consorts. Mais 17 000 hommes viennent de passer 14 ans en République démocratique du Congo. Comment dans moins d'une semaine, pour une fois, la guerre peut se terminer et l'M23 défait sans que les gens se posent la question d'où vient la magie. Donc pour moi, je me dis que nous félicitons la communauté internationale d'avoir compris que les multinationales qui exploitent illicitement nos minéraux peuvent venir par la grande porte, comme Soko, qui est une société anglo-saxonne,
merci,
vient de terminer ses exploitations pour le pétrole dans le parc de Virunga, malgré les cris des écologistes. Nous pensons qu'effectivement, il faut que le multinational exploite nos richesses à bon escient.
Merci, honorable. Sénateur Tekis Moulaïla, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Goma, en Nord Kivu.
Mathieu Bawere, depuis Goma, la province du Nord Kivu. L'initiative de la continuité des négociations de Kampala est bonne, dans le sens de vider tous les prétextes de la guerre, sauf j'aimerais savoir, en cas de la persistance du M23 à l'amnistie et à l'intégration de ces criminels dans l'armée, que fera le gouvernement congolais?
Réaction, sénateur Moulaïla. Sénateur Moulaïla? Voilà, décidément, on vient de le perdre. La réalisation va tenter de le retrouver. Maître Jean Morbert Nsenga, vous avez suivi l'honorable Bitakwira. Il faut carrément mettre une croix sur Kampala. Mais le président de la République a également appelé les groupes armés à se démobiliser volontairement à la faveur de l'initiative de la région des Grands Lacs. Faute de quoi, dit-il, je le cite, nous n'aurons d'autre option que de les y contraindre par la force. Cela est-il possible?
Moi, je m'étonne de la formule utilisée par par le président de la République en disant « nous n'aurons d'autre choix ». Cela est mis au futur. Je pensais que c'était une option qui était déjà levée et que le M23 n'a été que la première cible et que les autres cibles devaient suivre immédiatement sans désemparer. C'est d'ailleurs ce qu'ont demandé un groupe de jeunes ici à Goma qui ont manifesté devant le quartier général de la MONUSCO hier pour justement demander à ce que les FARDC ne s'arrêtent pas en si bon chemin, ne fassent pas de trêve. Donc il est clair que l'on doit demander aux groupes armés comme l'APCLF, les Mai Mai, les FDLR et tous les autres groupes armés de déposer les armes. Sinon, ils vont être rattrapés par la force, par la contrainte. Mais il ne faut pas attendre entre le temps où on libère Tchanzu et Bunagana et le temps où on pourra commencer cette offensive-là. On devrait y aller sans désemparer et ces groupes armés doivent ressentir cette menace comme telle. Et maintenant, ce qu'il est important de noter, c'est que la force ne suffit pas. C'est comme l'a dit le président du M23, ce n'est pas tous les jours que l'on peut être d'accord avec lui. Il l'a dit, on peut désarmer les hommes, mais tant qu'on n'a pas désarmé les causes, alors on va avoir de perpétuels recommencements. Hier, c'était le CNDP. On a cru qu'on l'avait neutralisé en 2009. Il y a quelques 19 mois, le M23 est né. Aujourd'hui, on est en train peut-être de le mettre au coma, mais on ne l'a pas tué. Et demain, il peut y avoir le M quelque chose, ou bien n'importe quel autre nom, si on ne s'attaque pas aux causes profondes de ces crises répétitives et cycliques dans le Nord.
Alors, si on ne s'attaque pas à ces causes, Maître Morbert Nsenga, en attendant ma question, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Mbujimayi au Kasai Oriental.
Congo Kababa, dans la province du Kasaï oriental, précisément dans la ville de Mbujimayi. Comme l'option militaire a payé, elle doit être appliquée à l'endroit de toutes les forces négatives, surtout les FDLR, les LRA, ainsi de suite. Mais l'option politique doit être faisable avec chaque groupe qui se pliera aux exigences du gouvernement. Et puis, nous avons pensé qu'il est grand temps pour l'installation des drones afin de sécuriser nos frontières.
Et puisque donc il faudrait désarmer les causes, Maître Morbert Nsenga, faut-il se replier sur le dialogue inclusif tel que l'a proposé l'honorable Bitakwira en interne?
Non, je pense que ça c'est des arguments tout à fait politiciens. Les dialogues sont nécessaires dans tout processus démocratique.
mais qu'on puisse utiliser ce dialogue pour, soi-disant, régler le problème politiquement, les problèmes des groupes armés dans le Kivu, cela me paraît ne me paraît pas réaliste. Je pense que, et c'est là que je pense que la communauté internationale, aussi bien que beaucoup d'observateurs de la situation dans l'est de la RDC, commettent une erreur lorsqu'elles confondent l'option politique ou bien la solution politique dont on parle tant, à des questions d'amnistie, par exemple, de réintégration des groupes armés dans des miliciens dans l'armée nationale ou la police, etc. Je considère, pour ma part, que la politique dont il est question pour attaquer les causes profondes de ces conflits, c'est la mise en œuvre d'un certain nombre d'accords et d'engagements que la RDC a déjà signés avec les pays de la région, avec la communauté internationale. Il n'y a rien à inventer pratiquement. Il y a eu le pacte de Nairobi, il y a eu avant ça les accords de Lusaka, il y a eu plusieurs, et le tout dernier en date, c'était l'accord cadre d'Addis Abeba.
Merci.
Et lorsqu'on parcourt tous ces documents, on se rend compte que le gouvernement congolais s'est plusieurs fois engagé, par exemple, à faire retourner les réfugiés.
Merci.
À préparer le retour des réfugiés qui se trouvent dans les pays voisins. Par exemple, à mettre en œuvre la décentralisation, à améliorer le processus démocratique. Aujourd'hui,
merci,
on est en train de parler de 2016. Si on fausse le chemin pour 2016 en tripotant les histoires dans la loi électorale, par exemple, ou l'organisation de la CENI, on ne sera pas en train de favoriser le retour de la paix à l'est de la RDC. Il y a la réforme du secteur de sécurité. Il y a le respect des droits de l'homme, la réforme de la justice.
Merci. Merci, Maître Nsenga. Sénateur Tekis Moulaïla, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, mais vous êtes... Je sais que la technologie n'a pas d'amis ou n'a pas de parents. Bon, je suis en ligne pour que je réponde à la question que vous me poserez sans savoir ce que les autres ont dit.
Voilà, malheureusement... Lorsque on vous a perdu, je vous adressais la question de l'auditeur qui s'appelle Mathieu Bawere, qui nous écrit de Goma au Nord Kivu, qui dit l'initiative de la continuité de négociation de Kampala est bonne dans le sens de vider tous les prétextes de la guerre, sauf que j'aimerais savoir, en cas de la persistance du M23 à intégrer tous ces criminels dans l'armée, que fera le gouvernement, sénateur Moulaïla?
Non. Écoutez, nous sommes devant un cas bien connu de tous. Ces militaires qui se sont mutinés, sans que je me déverse dans des situations, des faciès ou de ceci, mais c'est connu de tout le monde que ce sont des militaires utilisés par... un pays voisin pour des objectifs bien déterminés. Il a été dit dans les négociations, l'amnistie au cas par cas, il n'y a plus d'intégration, de brassage, de ceci, non. On dit non. Pour la plupart des militaires qui sont là-bas, ils ont été OECD, deux, au CNDP, 3, au M, je ne sais quoi que vous dites. Et puis, ils ont déjà bénéficié plusieurs fois. Et puis, quand vous vérifiez, tous ces militaires-là, ce ne sont pas des militaires congolais. Alors, si ce sont des militaires congolais, aujourd'hui, dans la République démocratique du Congo, il y a une loi qui organise le fonctionnement et l'organisation des forces armées congolaises. Mais qu'ils aillent se faire recruter sur base de ces conditions.
Mais, okay. Mais sénateur Moulaïla, pourquoi finalement vous discutez avec le M23? Ce sont ces mêmes personnes que vous fustigez et puis vous continuez à parler avec eux.
Avec le M23 tout simplement parce que le chef de l'État ne veut pas qu'il y ait quelque part un groupe d'hommes qui se prétend être marginalisé, qui prétend n'avoir pas été utile à la reconstruction et qui prétend n'avoir pas été respecté dans la dignité humaine. Et le chef de l'État devant ses collègues de la CIRGL,
il a pris un engagement ferme. Cet engagement ferme disait, il va les écouter, un, pour l'évaluation de l'accord du 23 mars, deux, il va les écouter par rapport à leurs revendications, pour autant que ces revendications soient légitimes. C'est un esprit démocratique qui n'existe nulle part. Ni au Rwanda, ni au Luganda, où j'ai passé 10 mois, ni au Rwanda, ni à l'Ouganda, pas d'esprit de dialogue. Le chef de l'État, c'est un démocrate, et il veut savoir que veulent les Congolais qui se mutinent. Or, ils se retrouvent dans ces groupes-là. Ce ne sont pas des Congolais qui se sont mutinés, ou les Congolais qui se sont mutinés, ce sont des Congolais qui ne sont pas des patriotes, qui ne sont pas des nationalistes. Tous les militaires congolais sont disciplinés.
Sénateur Moulay.
Ceux-là qui sont aujourd'hui en train d'agir avec le concours de la gouvernance internationale, qui a compris que le mensonge ne peut pas diriger le monde. Et alors, le Rwanda qui depuis des années a fait des génocides de ceci, même les FDLR qui sont des
démocrates
fictifs, la gouvernance internationale s'est rendue compte.
Sénateur Moulaïla.
Ce qui était aujourd'hui, vous me suivez, j'espère.
Sénateur Moulaïla. Est-ce que vous me suivez aussi?
Ils se sont rendus compte que les gars qui...
Sénateur Moulaïla, je vous redonne la parole tout à l'heure. Il nous reste vraiment moins de 3 minutes. On doit déjà conclure. Honorable Justin Bitakwira, le président de la République appelle également les autres pays voisins à soutenir la paix et la stabilité dans la région par la mise en œuvre effective de l'accord cadre d'Addis Abeba ainsi que la résolution 2098. Pensez-vous qu'il y a suffisamment de pression maintenant pour que cela soit appliqué?
Oui, c'est vrai, peut-être que nous sommes vers la conclusion, mais je voudrais d'abord dire que il faut pas confondre les différents groupes Maïmaï avec les FDLR, les ADF Nalu et les RA. Les Maïmaï, en une certaine période de notre histoire, se sont donnés pour défendre la République. Mais malheureusement, ils ont été infiltrés en un certain moment pour effectivement, leur combat a été dilué pour devenir plutôt négatif que positif. Et je connais des cas où il y a des gens, des officiers militaires de l'armée congolaise qui refusent aux Maïmaï d'intégrer l'armée. On les amène au brassage, ils font 6 mois, 1 an, 2 ans pour les décourager, après un moment ils partent. Maintenant il y a d'autres groupes qui viennent, effectivement ils ont la facilité de pouvoir intégrer l'armée.
Alors, en guise
donc,
de conclusion,
donc le cas des groupes armés concernant Maïmaï, il y a à boire et à manger.
Alors en guise de conclusion, par rapport à ma question, y a-t-il suffisamment de pression et de bonne foi pour que les autres nations respectent l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098?
Oui, avec la défaite du M23, c'est pas un jeu de hasard. Ça a été décidé à un certain niveau. Et même au-dessus de nos têtes, à notre insu, la volonté de la communauté internationale a changé de pôle. Pour le moment, il voudrait effectivement que les richesses du Congo soient exploitées de manière objective et que ces richesses servent à ces populations.
Merci.
Mais je voudrais terminer en disant
que
les moments pareils, ce sont des moments où les grands hommes se confirment. Et c'est ici l'occasion pour demander à tous les chefs d'État de la sous-région des Grands Lacs, au lieu d'être... Des tueurs, des massacreurs qui deviennent des acteurs de la paix et du développement.
Merci. Maître Jean-Morbert Nsenga, comment faudrait-il déjà dire maintenant que la paix revient et est définitivement revenue au Nord Kivu?
Non, malheureusement non. On est encore très loin du compte et je suis surpris, comme des milliers de vos auditeurs sans doute, de cette phrase de M. Moulaïla et ses louanges au président Kabila, dont il dit qu'il n'a jamais commis d'erreur. Je suis sûr que ce n'est pas l'avis des millions de Congolais qui suivent Radio Okapi en ce moment. Donc on est encore très loin du compte, et c'est pour ça que j'ai dit il faut désarmer les autres groupes armés. Il y en a, j'en conviens avec M. Bitakwira, qu'il y en a qui ont pris les armes pour défendre leur communauté contre certains agresseurs.
Maître, concluez parce que l'émission touche déjà à sa fin.
Cas. Mais il y a des causes qu'il faut également désarmer. Donc,
merci.
À part désarmer les FDLR et les ADF et les autres groupes armés étrangers.
Merci, maître. Merci, maître. Sénateur Moulaïla, juste un mot pour terminer.
Un mot pour terminer, monsieur le journaliste de l'Okapi. Le peuple congolais doit comprendre une chose. Il n'y a que le président Kabila qui veut la paix qui veut le développement et qui veut que tous les Congolais Merci. Puissent participer.
Merci sénateur, c'est par vous que nous terminons. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la Radio de la Paix. Au revoir.
L'émission que vous venez de suivre était une rediffusion.